pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il a suffi que les Portugais l'entendent à la radio le 25 avril 1974, peu après minuit, pour savoir que la dictature avait pris fin. La Grandola Vila Morena, c'est le nom de cette chanson portugaise, diffusée ce jour-là sur la chaîne de l'église catholique Radio Renascença et qui signala le début de la révolution des œillets, mettant fin à plus de 40 ans de dictature au Portugal. Dans les casernes, raconte Libération, quelques centaines de militants du MFA, le mouvement des forces armées, attendaient ce signal pour grimper sur les jeeps et dans les chars d'assaut et rouler vers le centre de Lisbonne.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
La chanson est écrite en 1971 par un certain Zeca Afonso, un artiste engagé, un communiste. Elle emprunte aux chansons populaires portugaises, écrites en redondilla maior, c'est-à-dire un vers de 7 syllabes, sans instrumentalisation. Un homme seul commence par chanter la première strophe, avant d'être rejoint par un chœur, exclusivement masculin, en contrepoint. La cappella rappelle le chant d'église, mais aussi les airs traditionnels des hommes qui vont au chant. La Grandola Vila Morena n'a pas un contenu ouvertement politique. Afonso y chante la terre de la fraternité et l'égalité sur tous les visages. Il veut rendre hommage à la ville de Grandola où il avait été invité en 1964. Mais il ne l'a pas choisi par hasard. Grandola est connue pour sa tradition politique bien à gauche, d'où sont issues des générations de communistes et d'opposants à la dictature qui règne dans le pays depuis 1944. Malgré sa diffusion modeste, le chant subversif devient le point de ralliement des contestataires et en 1974, la bande-son de la révolution des œillets. Zeca Afonso, lui, continue à militer toute sa vie et sa chanson reste dans l'imagination populaire, oubliée, puis redécouverte quand il s'agit de protester contre le gouvernement, en 1995 par exemple, et aussi en 2011. Dernièrement, en 2013, à l'Assemblée nationale portugaise, alors que le Premier ministre Pedro Passos Coelho répond aux questions de l'opposition socialiste, des citoyens installés dans la partie réservée au public commencent à chanter la Grandola Vila Morena. Symboliquement, ils chantent le refus des nouvelles mesures de rigueur que propose le Premier ministre. Ce que dit la chanson, celle-là et d'autres chansons encore qui vous ont marqué ou un instant de votre vie, à vous, c'est tout de suite dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture jusqu'à 14h. Et c'est un reportage d'Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Si je devais raconter cette histoire à quelqu'un, je dirais que c'est une histoire troublante parce que j'ai eu l'impression que c'était une vie dans la vie, c'est-à-dire une autre vie possible, que je n'ai pas vécue. Et la chanson, c'est la chanson de Lucienne Delisle, dont j'avais d'ailleurs acheté le disque, que j'avais trouvé dans une brocante, L'amant de la Saint-Jean.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean.
Mais quand il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux. Après, je me souviens plus. Non, en fait, quand j'en parle, c'est tellement ça que c'est terrible. Parce que c'est vrai que émotionnellement, dans ma tête, les choses se partent un peu comme des éclats de verre quand je pense à ça. Bien, pour commencer, en fait, moi j'ai rencontré plein d'amis super lorsque j'étais dans une école d'art graphique. Et en fait, là-bas, j'ai connu un garçon qui avait la particularité de très bien dessiner. Donc, forcément, dans une école comme celle-ci, toutes les filles étaient folles de lui. C'était un peu une sorte de tombeur, ou je sais pas. Pour moi, c'était un garçon qui pouvait pas tomber amoureux. C'est un garçon qui s'attachait pas, quoi. Et en fait, pour tout vous dire, il y a eu un truc une fois, ça s'est produit une seule fois. Et pour vous dire, le lendemain, je suis pas allée à l'école, j'étais en étoile de mer sur mon lit. les yeux rivés au plafond en me rappelant à chaque instant de la scène. Je ne pouvais pas aller à l'école, c'était pas possible. Et donc en fait, j'ai fait exprès, j'ai tout gâché, j'ai dit non, mais c'était juste pour un soir. Moi-même d'abord, de peur d'être plaquée vulgairement. Et du coup après, bon, c'est resté une amitié, mais il y avait quand même ce truc, je me suis dit, voilà, il est redoutable quoi. Mais malgré tout, je faisais un peu tomber tout devant lui, j'étais un peu maladroite et je me sentais parfois très gaudiche. Et parfois, je sentais que, je sais pas comment vous dire, il y avait un truc un peu bizarre, oui, en effet, entre nous quand même. Et au fur et à mesure du temps, on est restés copains. Moi, je me suis mariée entre-temps et on se voyait de temps en temps. Et puis, à un moment, c'était un peu perdu de vue, il était parti aux États-Unis. Et puis je l'ai revu après, alors que j'étais donc toujours mariée, tout ça. On était très proches quand même. Et à un moment donné, j'avais pris un atelier avec lui, on avait travaillé ensemble lorsque je me suis lancée en graphiste indépendante. Et puis en fait, avec mon mari, bon, il y avait des hauts et des bas, tout ça. Puis une fois, ça n'allait pas du tout. Et du coup, lui était mon confident, mon premier confident. Et puis on était de plus en plus proches. Je louais une chambre de bonne pour travailler, parce qu'avec mon mari, c'était devenu difficile. Et dans cette chambre de bonne, en fait, j'avais fait mon petit nid. Et lui venait me voir. Et puis un jour, je l'avais invité à prendre le thé. Alors, il y avait le jeu du... Vous savez, un jeu qui s'appelle le Tao, non, je ne sais plus. En fait, c'est quand on lance des pièces, c'est chinois, et ça prédit l'avenir. Et on était tous les deux, et on s'amusait. Je lui dis, regarde, tu vois, il y a ce truc-là, c'est rigolo. Et regarde ce que ça m'a donné. Et là, je lui montre, en fait, un petit texte où il y a écrit... Une personne se rapproche de plus en plus de vous. Ça risque d'être une très belle histoire si les sentiments sont réels. S'ils ne sont pas sincères, abstenez-vous. Mais s'il y a des sentiments en face, vraiment, ne loupez pas cette histoire. Et je lui lis ça d'un air faussement innocent. Et là, il me dit, les sentiments sont réels. Et ils sont vraiment là. Et ils sont sincères. En fait, c'était tellement fou. Il y a eu un silence énorme. Il a dit, je devais partir à 3h. Et je lui ai dit, Mais il est bientôt 3h en même temps, et il a dit oui. Et là, l'horloge a sonné 3 coups. Il y avait une église juste à côté, on l'entendait bien. À travers le vasista ouvert, il faisait très chaud dans la chambre. Et je lui dis, avant de partir, est-ce que tu veux pas un peu te reposer? Et là, il a dit, carrément. En fait, il a un accent quand il parle, il dit, carrément. Et là, en fait, on s'est allongé et on s'est pris dans les bras. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, on s'est serré dans les bras, mais c'était magnifique. Enfin, c'était... On s'est embrassé, mais c'était très naturel. Et ça m'a rappelé les 15 ans avant qu'on s'était embrassé. Mais c'était dans le noir, la semi-obscurité. Je n'avais pas vraiment vu ses yeux. En plus, là, il y avait du soleil. Et tout d'un coup, je me suis aperçue qu'ils avaient des reflets kaki, en fait, qu'ils étaient tellement magnifiques. Et on a continué à se regarder dans les yeux comme ça pendant, je pense, 4 heures. Et l'horloge n'arrêtait pas de sonner d'ailleurs, et on rigolait parce que normalement il avait dû partir sur les coups des 3 heures, et là après il était 4 heures, 5 heures, et je crois que finalement à 6 heures, je vois qu'il est parti, mais c'était, j'ai l'impression, oui, je suis tombée dans ses yeux comme Alice au Pays des Merveilles quand elle tombe dans le sort de puits, en fait. Je basculais dans l'autre monde, en fait. Il est très beau comme l'amant de la Saint-Jean, comme on peut l'imaginer. C'est très bizarre. Il faut dire que c'est lui. Il a un visage au contour assez marqué. Et il a des très belles mains. Et il porte toujours des chemises qu'il achète dans les brocantes, indémodables et ouvertes un petit peu devant et roulées sur les manches, et qui laissent voir que sur son poignet, en fait, il a une tache marron. Et recouvert par des poils comme un loup, en fait. Voilà. Et en rentrant de vacances, en fait, c'est là où on s'est revus. Et c'est là où ça s'est fait très vite, en fait. Ça a été fatal. En fait, j'ai quitté mon mari. Je l'ai revu, en fait, chez lui dans son appartement, qui avait en fait un appartement de famille très ancien. Il y avait un canapé qui était marron. on était là et il a mis ses lunettes et j'ai vu qu'il avait des lunettes, j'avais jamais vu qu'il en portait et ses lunettes étaient pas très belles mais justement ça les rendait belles en fait. En fait c'était hyper émouvant qu'il ait des lunettes pas très belles parce que justement son caractère est tellement modeste que c'est tellement sensible qu'en fait que ses lunettes soient comme ça, en fait c'était hyper humble en fait, c'était tout lui. Et là, il m'a dit, il y a eu un silence, et il m'a dit, pour un garçon, on pourrait l'appeler Brun, et pour une fille, Colline. Et là, c'était vraiment le triple tonnerre en face de moi, j'ai halluciné, parce que même si on se connaissait bien, on n'avait jamais évoqué ça, et effectivement, je voulais appeler ma fille Colline et mon fils Brun, si j'en avais des enfants. Et tout était parfait, chaque truc était juste. Du coup, je suis allée dans son village. C'était incroyable, la maison. J'ai l'impression de l'avoir toujours connue, ses parents, sa mère. Et puis, surtout, en fait, la place, il y avait comme une place. On pouvait imaginer le bal musette, ou je ne sais pas. Et voilà. Et il y avait cette impression de quelque chose de déjà vécu. Cette sensation qui apparemment n'est qu'une, peut-être une illusion neurologique. Mais en même temps, vraiment, cette sensation que chaque chose, je l'avais déjà vue. Et donc c'était une histoire qui était une autre vie possible. J'ai l'impression que c'était ma vie. Et en fait, au moment de faire le choix, quand mon mari m'a dit « mais maintenant il faut qu'on divorce », en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pleurais tout le temps. Et les circonstances idéales du début sont devenues circonstances un peu noires, un peu comme un cauchemar. Et je me suis mis à avoir très peur. Tout d'un coup, mon mari était comme un lien viscéral, un peu comme mes propres parents. Mon mari devait partir en voyage pour oublier sa douleur et je pleurais tous les jours en disant « mais j'ai tellement peur qu'il meure dans un accident d'avion, j'ai tellement peur qu'il meure et qu'il meure en pensant que je suis partie avec un autre homme. » Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais partagée parce que je pense qu'il y a plusieurs amours. Et voilà, et en fait, c'était impossible, j'ai pas pu faire autrement. Je lui ai dit « ne me recontacte plus, je deviens folle en fait. Je veux revenir mais je ne le peux pas. J'ai trop de chagrin, tu comprends. Si je reviens, ça me donne trop de chagrin pour mon mari, donc je ne peux pas. » Je disais, tu comprends, je ne peux pas quitter un lien viscéral, c'est comme si je quittais ma famille, tu comprends, c'est comme si... Tu comprends, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui fait partie de moi, je peux pas le laisser, c'est comme si je l'abandonnais. Et il me disait, moi, tu m'abandonnes, pourtant. Oui, c'est vrai que je l'ai abandonné. Après, il m'a dit, tu m'as arraché le cœur, tu m'as coupé la tête, au couteau à beurre.
Mais il a sa Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un logo. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête?
Je l'ai laissé, il a rencontré quelqu'un et j'ai beaucoup souffert. C'était une autre vie possible et pourtant je ne l'ai pas choisi. Pourtant c'était évident mais pourtant je ne l'ai pas choisi. Et je me dis peut-être un jour, mais je me dis que ce n'est pas possible. Un truc comme ça c'était peut-être un cadeau et je ne l'ai pas appris.
Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
La fin de cette histoire a lieu il y a 3 ans en fait, au mois de novembre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est cette chanson, quand je l'entends, je préfère m'éloigner parce que c'est pas possible, en fait. Je peux pas, c'est trop dur. Oui, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps, oui, tous les jours. Et c'est vrai qu'en fait, je fais toujours le même cauchemar. Toujours. Je le fais peut-être pas toutes les nuits, mais tout, presque, en fait. Je pense à son village, je pense à une sorte de bal qui n'a jamais eu lieu, en fait. Peut-être le bal de la chanson. En fait, il est là et il ne me reconnaît pas. Et il danse avec cette autre fille, en fait, qui est maintenant certainement la femme avec qui il sera. Et en fait, je ne suis plus qu'une étrangère pour tout le monde, pour sa famille, qui m'aimait tant. Je suis une étrangère. Je suis celle qui l'a quittée, qui l'a fait beaucoup souffrir. Et voilà, je l'ai trahi, enfin... Je suis comme un fantôme pour ces gens. Je suis plus là, j'ai plus ma place. Et d'ailleurs, je dois vite m'en aller parce que je suis presque de mauvais augure parmi cette fête, qui est presque la fête de son mariage, finalement. Vous voyez.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors l'histoire commence quand j'avais, je crois, 7-8 ans, dans la maison de mes parents, où avec ma petite sœur, on vivait tranquille, heureux, famille sans histoire. Et puis il y a un moment où, quand vous avez 7-8 ans, commence à se préciser les premiers émois amoureux ou sexuels. Et je me souviendrai toujours que un jour, on était avec ma petite sœur qui devait avoir 3 ans, je devais avoir 7 donc, et on avait une bonne espagnole qui était une femme, je me la revois encore, elle avait une queue de cheval comme dans les années 50, elle avait une espèce de chambre dans laquelle elle dormait, nous on était là, les petits gamins, on l'aimait bien, elle était à la maison, et j'ai le souvenir que brutalement, l'image que j'ai forte, c'est qu'elle s'était mise debout sur le lit, en slip et soutien-gorge, slip blanc, soutien-gorge blanc, enfin rien d'extraordinairement érotique, et elle s'est mise à danser sur le lit sans musique, et ma petite sœur et moi, on était là, mais j'ai le souvenir qu'on était sidérés. C'était à la fois la sauvagerie de la femme, une espèce de vraie sensualité, et en même temps, il se trouvait qu'elle était espagnole. Bien longtemps après, j'ai découvert une magnifique chanson dans un disque Aragon Ferré qui s'appelle L'étrangère. Et il raconte que j'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. L'été, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août, pour y boire du vin et chanter, etc. etc. Et il dit, une étrangère a pris ma main, elle avait des yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison, d'accord, elle m'a suivi dans ma maison, et sa robe tomba vite, vite, quand ma hâte la délia. Donc c'est exactement l'écho du souvenir de l'enfance. Vous voyez, c'est comment une femme aussi libre, surtout que moi j'ai une éducation qui était... À l'époque, il n'y avait pas cette liberté, cette égalité entre hommes et femmes, j'ai 70 ans. Et du coup, je revivais la confrontation avec la femme.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien.
Je crois que c'est le mot quand ma hâte la délia. Sa robe tomba vite, vite quand ma hâte la délia. Et c'est ce mot-là, c'est très précisément l'image du corps de cette femme qui bougeait, qui se déhanchait, qui se dandinait, qui improvisait une danse en quelque sorte. Oui, voilà. Je me souviens, elle était brune, elle était raisonnable, ni empâtée, ni fil de fer. C'était une femme qui devait avoir, j'imagine, 25-30 ans. Je me souviens très bien de la finesse de ses épaules, des yeux noirs, un regard... C'est une Espagnole, c'est pas une Espagnole sombre, andalouse, vous voyez. Voilà, une jeune femme, quoi.
Et de longues jambes de fang. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant.
Une scène d'une après-midi de mon enfance, un épisode.
Tout commence, je pense, bon, j'avais 7 ans en ce moment. J'aimerais m'appeler de rester beaucoup de temps dans les lits, sur les sols. Et dans l'appartement de mon père, de la capitale de mon pays, Chili, Santiago de Chili. Et j'habite là avec mon père, tout seul. Oui, je me rappelle que lui m'a dit, Daniel, viens, écoute, presse les play. Il m'a pris par les mains. On s'est allongé sur le sol. On était complètement en silence. Nous écoutons un bon disque de super bon disque de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Je me rappelle vraiment de la lumière qui entre dans la fenêtre et des écouteurs, toutes les la profondité, la densité de la chanson de Pink Floyd. Le soleil chauffait le sol. C'est ça que je m'appelle vraiment. C'est une sensation de... c'est pas de... plénitude. Ma mère m'appelle de mon enfance, que c'est pas une enfance facile. Parce que mes parents sont en clandestine. Les deux communistes, les deux habitent dans plusieurs maisons, tous les temps en fugue. Donc mon enfance, c'est un peu partager la vie de mes parents, que c'est super fragile, que c'est super difficile. Partager la persécution vraiment de mon famille. Toujours, quand nous écoutons la chanson et Dark Side of the Moon, nous garons la voiture pour écouter et profiter de la même sensation, de la même connexion entre nous. Les années avaient passé rapidement. Alors ensuite, c'est toujours spécial cette chanson parce que bon, depuis 12 années, mon père était malade de cancer. Et 3 jours avant, mon père est mort dans l'hôpital. Et nous écoutons la même chanson. C'est la dernière fois que j'étais avec lui. Après, lui est tombé dans le coma. J'ai dit, on va écouter ensemble les chansons Dark Side of the Moon. Oui, on va écouter ça. Avec énergie, avec le même enthousiasme. Je suis allongé dans les bras de mon père malade. Jusqu'au mon petit enfant, moi et lui. J'aimerais m'appeler de prendre les mains. La même chose comme j'ai été petit. Mais maintenant, c'est moi qui ai pris les mains de mon père. J'aimerais m'appeler de qu'il lui sourit. Et dans la chanson, mon père et moi, nous étions en une transe. Les deux, les mains très serrées, fortes, mais avec les minutes, les mains lui commencent à perdre la force. Mais j'avais senti que le corps de mon père et le corps de mon père pour fin podía reposer. Oui, enfin les corps de mon père pouvaient se reposer. C'est un moment de beaucoup, beaucoup d'intimité. C'est vraiment ça, c'est l'acceptation de la mort. Bon, fin de la chanson, mon père dort. Lui est mort. 2 jours après écouter cette chanson. eres solamente una parte tan ínfima de este universo. Tu comprends que tu es complètement infime dans l'univers. Lui trouvait les choses vraiment importantes dans la vie qui sont comme ça, comme ces petits espaces de confiance, d'intimité, d'amour, de connexion avec un autre. Qui est toujours, c'est ça le plus important dans la vie. C'est pour ça que c'est joli pour moi. Dark Side of the Moon, c'est toujours en connexion avec mon père.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie. Et tu ne l'as pas cueilli.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, ce que dit la chanson, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Marie Placet avec un coup de main de Philippe Baudouin, une émission diffusée pour la première fois le 17 novembre 2015. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Céline Autain, c'est notre stagiaire.
La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.